Et bonjour, vous êtes sur le réseau FM+. Ce réseau réunit deux radios, Alliance Plus à Nîmes sur le 103.1 et FM+ à Montpellier sur le 91 de la bande FM. Tous les vendredis à 10h10, retrouvez Scénorama, émission dédiée à l'actualité culturelle, avec rediffusion le samedi à 12h10 et écoutable en podcast sur fmplus.org. Aujourd'hui, je reçois Bénédicte Payeux qui va tout nous dire sur la très riche programmation de Pierre Vive, la cité des savoirs et du sport pour tous. En seconde partie, c'est Asiade Baskounana, j'ai bien prononcé Asiade,
oui, tout à fait,
qui nous présentera sa création, Les gens connus, une pièce à voir jeudi et vendredi prochain, c'est-à-dire le 4 et le 5 au théâtre de Villeneuve-la-Maguelone. Bonjour.
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 Alors, Bénédicte Payeux, vous êtes responsable de la communication de tous les événements culturels et festifs de Pierre Vive, et Dieu sait s'il y en a.
Oui, Dieu doit bien le savoir, et moi aussi. Et je suis chargée de communication, pas responsable. Attention bon. À la hiérarchie,
ah
je veux
là,
froisser
oui,
personne.
Oui, oh là là, oui, on est bien, vous avez raison de rectifier. Et alors, c'est incroyable, ce lieu, il a pris vie, mais une vie très intense.
Tout à fait, on a ouvert il y a 2 ans à peine, hein, en septembre 2012, et depuis, eh ben, on a une programmation qui est très riche parce que ce lieu a une particularité, il rassemble à la fois la médiathèque départementale, donc autour de la musique, la lecture publique, le cinéma, mais aussi les archives départementales, donc autour de la mémoire, de l'histoire, et puis Aérosport, autour donc du développement du sport, le sport citoyen, le sport bien-être, et également avec l'architecture de Zaha Hadid et l'aménagement tout autour, nous avons une proposition qui se décline autour de l'architecture. Donc on a des portes d'entrée qui sont très vastes, multiples, et on a une grosse focale sur l'enfance. Donc on a énormément d'activités qui sont proposées pour les familles, pour les jeunes enfants, et on a une fréquentation qui est plus que ce que nous avions espéré. Nous avions tablé sur 100 000 visiteurs par an, et nous sommes à 300 000 au bout de 2 ans, donc...
C'est magnifique, oui.
Oui, c'est une belle réussite, c'était un beau challenge, oui. Et le challenge, ben, le public est au rendez-vous, donc c'est vraiment très agréable.
Ah oui. Alors, vous parliez de l'enfance, le public est convié à revisiter les terres de l'enfance, accompagné par des artistes photographes, illustrateurs, historiens, magistrats, psychologues, ou encore des conférenciers de renom. Alors le tout, il faut préciser, c'est toujours en entrée libre, n'est-ce pas, Bénédicte ?
Tout à fait, c'est entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Quand ce sont des conférences, nous avons un amphithéâtre qui est très sympa, mais qui a 210 places. Donc c'est vrai que 210 places, ça peut être vite rempli. Donc il faut se présenter un peu à l'avance, il n'y a pas de réservation, et donc tous les événements sont gratuits, effectivement.
Oui. Alors il y a actuellement une magnifique exposition Terre d'enfance à voir jusqu'au 31 décembre. Donc il faudra vraiment profiter là, de ce mois de décembre, des congés ou des week-ends, etc. Pour la voix, vous voulez nous en dire quelques mots ?
Bien sûr. Alors, Terre d'enfance, c'est effectivement une manifestation autour des 25 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, donc qui a été ratifiée par la France le 20 novembre 1985. Et donc, autour de ces 25 ans, on a donc une palette de propositions, dont 6 expositions. Alors, l'exposition, la 6e dont je vais vous parler tout de suite, se termine samedi 29 novembre, donc il faut vraiment se précipiter pour aller la voir. Il s'agit d'illustrations de Christian Voltz, qui est un auteur et illustrateur d'albums jeunesse qui fait un travail remarquable et qui a été choisi par le département de l'Hérault pour créer le livre qui est offert à tous les bébés qui naissent dans l'Hérault. Donc Christian Voltz qui a fait Quel bazar, c'est à la médiathèque. Mais il y a également une exposition qui s'appelle Petit Dôme, et qui est un parcours photographique de Pierre Jeanret à travers le monde. C'est une très très belle.
Ah, oui.
Ce sont des portraits d'enfants du monde entier, avec à chaque fois des rencontres et des regards qui sont portés sur la vie de ces enfants dans le monde. Donc cette exposition, elle va voyager ensuite à Singapour, elle va partir en Asie. Enfin, elle a un très très beau parcours. Une enfance de l'art, ça, ce sont des visions contemporaines avec Ben, avec Sophie Kahl, avec Irina Verming, qui propose donc une vision de l'enfance, donc des artistes contemporains. Les doigts pleins d'encre, là, on fait un grand écart dans le passé, puisque c'est une reconstitution d'une classe du début du siècle dernier. Donc le 20e siècle, c'est le siècle dernier, ça nous semble très très loin, et c'est une reconstitution assez étonnante. Les enfants prennent pas mal de plaisir à voir ça, à découvrir comment c'était les conditions de l'école avant. Et puis on a également une dernière exposition qui s'appelle, on en a deux expositions, Les enfants de l'histoire, donc ça ce sont dans les archives, des archives des photos des films anciens, et Grandir avec le sport, puisque je disais tout à l'heure on a également du sport, donc des photos d'une très très bonne qualité de l'éducation sportive telle qu'elle était conçue au siècle dernier également. On voit notamment des petites filles qui apprennent à nager, et ça donne vraiment pas envie d'apprendre à nager les conditions dans lesquelles elles apprenaient. On voit des tas de sports anciens, c'est marrant de voir les équipements aussi, et ça se passe à la maison départementale des sports Nelson Mandela. Donc ça, c'est jusqu'au 31 décembre.
Ah, comment grandir avec le sport? J'avais noté le 15, non?
Non, c'est jusqu'au 31 décembre.
Très bien.
Il n'y a que celle de Christian Voltz qui est jusqu'à samedi, donc il faut vraiment se précipiter. Et les autres, le mois de décembre va vite passer, donc n'hésitez pas non plus à vous y rendre rapidement.
Oui. Ah oui, on va profiter, oui, je disais, des vacances là. Alors
on a des visites, si je peux me permettre, on a des visites guidées qui permettent de rentrer un peu plus dans l'univers des différents artistes. Ces visites guidées ont lieu de manière gratuite également, tous les mercredis à 14h30 et tous les samedis à 14h30. Et en dehors de ces créneaux-là, on a un audio guide qui est gratuit également et qui permet de rentrer un petit peu plus dans ce que les artistes ont souhaité exprimer.
Alors le lieu va fermer, j'imagine, quand même entre Noël et Nouvel An, non ?
Alors on va fermer juste la semaine de Noël, en fait. On fait un petit pont jusqu'au Nouvel An.
Oui, un peu de repos quand même.
Oui, ça sera bien, oui.
Mais il y aura plein de surprises avant, nous en reparlerons en cours d'émission. Là, dans l'actualité proche quand même, du 4 au 6 décembre, vous accueillez un colloque international qui s'avère mais vraiment passionnant. Il s'agit de la grande guerre des manuels scolaires pour réfléchir sur une juste mémoire.
Tout à fait. En fait, c'est comment notre vision de l'histoire avec un grand H a été influencée par les manuels scolaires. Et on voit qu'il y a des idéologies qui sont portées forcément par ces manuels scolaires. Et là, la réflexion se porte sur une période spécifique, puisqu'on est dans le centenaire de la guerre, la Première Guerre mondiale, hein, qu'on appelle la Grande Guerre. Donc, comment on a parlé de cette Grande Guerre au fil du temps? Comment on en parle aujourd'hui? Quelle est la responsabilité sur la vision que le grand public en a là-dessus? Donc, on a des chercheurs, des enseignants, des universitaires qui vont débattre de ces différentes thématiques-là, avec des conférences plus ou moins pointues, mais auxquelles est invité le grand public. Et on a également, autour de ce colloque international, où on aura des Anglais, des Allemands, des Togolais, des Canadiens, des Français, bien évidemment, à la fois de l'Université Paul Valéry, mais aussi de la Sorbonne, qui vont se rencontrer. Donc, autour de ça, il y a également des propositions qui sont des projections de films avec les fragments d'Antonin, par exemple, le jeudi 4 décembre. Le vendredi 5 à 18h, Les Voix de la Grande Guerre. Donc ça, c'est une lecture, un spectacle lecture pour mettre en voie les archives. On a une comédienne et metteur en scène ici, donc qui sait que c'est pas de la lecture simple qu'il faut faire pour donner à écouter, pour qu'on réussisse à écouter et à prêter une attention. Il faut faire une véritable mise en voie. On a également un spectacle musical donc de la compagnie You Structure Nouvelle, La Peur. On a une table ronde avec La Grande Guerre dans la bande dessinée, avec des auteurs qui seront là, donc Patrice Ordaz qui est co-scénariste de L'Ambulance 13 et SOS Lisutiana, et Nathalie Baird qui est dessinatrice de Nous Anastasia R. Et puis on a quelque chose de fun un peu au aussi avec la présentation interactive du jeu vidéo qui a été créé par Ubisoft Montpellier, donc qui s'appelle Soldat inconnu, mémoire de guerre. Donc on a vraiment toute une palette qui nous permet de voir que l'histoire, c'est effectivement des manuels, c'est effectivement des rencontres avec des chercheurs, des colloques, mais c'est aussi des choses un peu plus ludiques ou qui nous permettent de rentrer dedans sans se dire ça me concerne pas, ça nous touche à tous les niveaux.
Oui, donc il y a beaucoup de choses à voir en famille.
Tout à fait, beaucoup de choses à voir en famille, effectivement.
Vous êtes sur le réseau FM+, dans votre émission Scénorama. Donc, émission qui a lieu tous les vendredis à 10h10, avec rediffusion le samedi à 12h10 et écoutable en podcast. Notre premier invité est Bénédicte Payeux, donc, qui nous dit tout sur cette énorme programmation à Pierre-Vive. Et donc là, nous venons d'entendre un extrait d'un artiste qui va être en concert ce soir.
Tout à fait.
Voilà, parce que Pierre-Vive, c'est aussi des spectacles et des concerts.
Tout à fait. La médiathèque départementale donc propose des rencontres. Alors, ce sont des petites formes de spectacles et c'est vraiment précieux parce que on est dans cet amphithéâtre qui est un vrai cocon noir, hein, en bois, avec 210 places. Donc, c'est un format tout à fait intime. Et les artistes qui sont invités par la médiathèque sont des artistes qui viennent expliquer aussi, qui viennent donner un petit concert, mais qui nous permettent de rentrer dans leur processus d'écriture. Donc on a eu comme ça Alexis HK, on a eu Mathieu Bogart, on a eu Delphine Volange, et puis Laurent De Wilde, et il y a donc un focus jazz, et là Baptiste Trottignon, c'est exceptionnel de pouvoir l'avoir comme ça en petit format gratuit, en concert gratuit. Donc il va falloir se précipiter, la billetterie ouvre à partir de 18h, il n'y a pas de réservation, et c'est un très très beau moment qui va se passer là. Il vient de sortir un album qui s'appelle Hit, qui est un album en trio. Là ce soir il sera en solo. Et donc je pense que les personnes qui auront la chance de le voir s'en souviendront longtemps.
Ah oui, c'est vraiment un des pianistes les plus talentueux de sa génération. Il
Tout
a une
fait.
Quarantaine d'années.
Ouais, c'est ça.
Et alors aussi, bon, une petite initiative bien sympathique, il y aura une dégustation de vin, si je ne me trompe,
oui,
offerte par les vignerons indépendants de l'Hérault. Avant spectacle.
Tout à fait.
Entre 18h et 19h30.
Exactement. Donc, effectivement, on peut aller prendre son billet et aller déguster les vins de l'Hérault. Ça, c'est un programme qui est lancé par le département de l'Hérault, qui s'appelle Culture et Vins, donc qui permet à des vignerons de faire découvrir leurs vins dans des manifestations culturelles, puisqu'on sait que ça va assez bien ensemble, le vin et la culture. Et donc, les vignerons sont là en personne. Ils parlent de leurs vins, ils expliquent, ils parlent de leur domaine avec passion, comme ils le font bien souvent, puisque ce sont des viticulteurs indépendants qui viennent là. Donc c'est comment faire découvrir autre chose aussi, et la viticulture en a bien besoin en ce moment.
Oui. Alors, je pense, moi, à Noël, parce que malgré tout, enfin, mais si on est un mois, à peu près, enfin, on y arrive, tout le monde en parle, on commence à voir les décos en ville, etc. Enfin, bon. Et le 27 décembre, précisément, à 16h, les enfants, à partir de 5 ans, auront droit à leur Christmas show.
Oui, tout à fait. Ça, c'est un spectacle qui est proposé. Alors, on a régulièrement des spectacles qui sont proposés pour la petite enfance. Donc, c'est un spectacle qui sera assez détonnant, comme la plupart des spectacles proposés par la médiathèque. Et donc, c'est pareil, c'est toujours sur entrée libre et avec une jauge assez courte. Et on a également un film, je ne sais pas si vous l'avez relevé, donc qui s'appelle Mission Noël, qui est un film un peu délirant, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc je pense qu'on a peut-être...
On va écouter la bande-annonce. Et donc, Mission Noël, ce sera le 23 décembre, notez-le dès à présent dans votre agenda, on écoute sur le réseau FM+.
Cher Père Noël, moi je crois que tu existes. Mais comment tu peux aller voir tous les enfants du monde en une seule nuit ?
Si vous vous êtes déjà demandé comment ça se passait, vous allez avoir une sacrée surprise.
Opération Papa Noël descend du ciel.
Go, go, go!
Donnez l'assaut aux toitures.
Ho, ho, ho!
Temps de largage, 18 secondes, 14 par habitation.
Mission accomplie!
Par les producteurs de Chicken Run et de Wallace et Gromit, faites connaissance avec la famille qui organise Noël.
À moi ?
Le Père Noël est le patron.
Cette pauvre dinde en a fait bien plus que lui.
Steve est le cerveau.
C'est l'Allemagne, père. Conduite à droite, la nationale saucisse.
Et puis, il y a Arthur.
Je veux juste que ce soit parfait pour tous les enfants.
Mais ce Noël...
Il y a eu un pépin.
Ça alors ?
Il y a un petit problème.
Un enfant a été oublié ?
Tu veux réveiller tout le pôle Nord ?
Bonne idée !
Un enfant a été oublié !
Qui s'intéresse à un seul petit enfant tout riquiqui ?
Elle pensera qu'elle est la seule enfant dans le monde qui ne compte pas pour le Père Noël.
Tu sais, Arthur, je connais un moyen.
Tu viens avec moi, mon gars.
Moi ? Là-dessus ? Là-haut ? Tiré par eux ?
Tornade, danseuse !
Comment s'appellent les autres ? J'ai jamais été fichu de m'en souvenir. Bambi !
Je suis pas très doué avec les gros animaux.
Cette année, la dernière personne à laquelle on aurait cru...
Chef, pourquoi il est là-bas, Arthur ?
...est la seule qui peut sauver les fêtes.
Si Steve voulait bien reculer... Oh !
Ce qui compte, c'est pas comment on arrivera là-bas. Ce qui compte, c'est qu'elle y croit toujours.
Mission Noël.
Vous pensez que ça se passe ?
Ça se passe bien. Bien !
On n'oublie aucun enfant !
Waouh ! Waouh! Eh ben, dites donc, ça s'annonce très fort, là.
Ça va dépoter à Pierre-Vive.
Ah ouais, moi, je veux y aller. C'est clair. Je veux voir ça. Donc, c'est Mission Noël, le 23 décembre, les aventures de la famille Noël à partir de 6 ans. Et c'est à 16h.
Exactement.
Ouf!
Alors, on a une programmation cinéma régulière, donc je vous invite à aller sur le site internet, oui, parce qu'on a, par exemple, la semaine prochaine, des saisons, les 4 saisons du court-métrage. On a des films documentaires de très grande qualité, on a du cinéma de fiction également, et puis on a également du cinéma pour les jeunes parents.
Ah, mais alors ça, j'adore. J'ai repéré ça, c'est vraiment, je trouve ça incroyable. Donc c'est pour les parents accompagnés de leurs enfants de moins de 1 an. Attendez, c'est génial.
Voilà. Hein,
et c'est à, donc c'est le 18 décembre, enfin il y en a une représentation notamment, puisqu'il y en a régulièrement, mais là c'est le 18 décembre à 14h30, et c'est vraiment dans des conditions bien particulières.
Oui, tout à fait. Alors ce sont des films qui sont programmés pour pas être trop violent au niveau sonore, hein, puisque l'idée, c'est de permettre à des parents qui seraient un peu désocialisés avec la venue d'un bébé de se retrouver ensemble dans des séances de cinéma. Donc les lumières sont plus tamisées, le son est un peu descendu. Et si bébé a besoin de prendre son biberon, s'il a besoin d'être changé, il y a tout ce qu'il faut sur la scène. Donc on n'embête personne, on va faire le changement et on revient à sa place, s'asseoir, et ça permet de discuter. Et c'est effectivement une initiative de la médiathèque aussi qui marche bien. Ouais.
C'est royal, ouais. C'est génial. Ouais. Ah ouais, ouais. Alors, quelques mots sur les informations pratiques. Donc, Pierre-Vive, la Cité des Savoirs et du Sport pour tous, se situe 907 avenue du professeur Blayac à Montpellier, quartier Mausson.
C'est ça, c'est en face du lycée Léonard de Vinci.
Voilà. Et le site internet, pierrevive en un seul mot en minuscule, .hero.fr.
Tout simple, c'est bravo.
Un téléphone pour les réservations?
04 67 67 30 00.
Voilà. Alors, beaucoup d'ateliers aussi, Bénédicte, hein, ont lieu.
Oui, on a beaucoup d'ateliers, notamment pendant les vacances scolaires. On essaie de développer l'offre qu'on a tous les mercredis et tous les samedis, hein, habituellement. Donc là, on aura du sport avec Découvrez le sport à Pierre-Vive. Donc c'est sur le parvis, ça se fait habituellement. Et ce sera donc les mercredis et samedis de 14h à 17h.
Quel type de sport?
Alors c'est multisport, donc on a aussi bien du tennis. Ils installent, en fait, c'est Aerosport qui installe toute une structure, donc gonflable. Mmh. On a du slack. On a parfois du kart, ça dépend en fait du temps, s'il y a du vent, s'il n'y a pas de vent. Comme on est en extérieur, on est obligé d'improviser à chaque fois, mais c'est multisport et c'est à partir de tous les âges. Ça veut dire qu'on peut venir même avec les bébés, on peut venir quand on est plus âgé. Donc c'est vraiment se bouger ensemble, apprendre des règles, donc du volley, etc. Donc il y a plein de sports qui sont proposés. Ensuite, on a de l'histoire, puisqu'on a les archives départementales, donc on a une découverte et pratiques de jeux de société pour découvrir l'histoire de manière ludique. Donc ça, c'est le 23 et le 30 décembre de 14h30 à 17h. Donc là, c'est pareil, on vient en famille. On a des briques Lego. Donc on a une convention avec la société Lego. On a 100 000 briques Lego. Wow. À Pierre-Vive, c'est énorme. Et quand on doit les ranger, c'est très long. Mais on a donc des propositions avec la Cité des Enfants, donc où les enfants construisent ce qu'ils souhaiteraient avoir dans leur ville, la Cité des Enfants. Donc si c'est une bibliothèque, un cinéma, une piscine, une école, parfois on en a qui construisent des écoles. Donc ils construisent la forme qu'ils veulent avec juste quelques règles sur la notion d'échelle. Donc ils ont des petits bonhommes Lego qui leur permettent de penser à mettre des portes, par exemple, des fenêtres, et avoir la taille. Donc on aborde quelques notions d'architecture, mais très rapidement. Ensuite, on a des challenges aussi avec briques Lego, du light painting, donc vous savez, les photos qu'on fait avec de la lumière noire et avec des lampes de poche, c'est assez fun aussi, c'est plutôt pour les ados. Donc on a des propositions pour s'occuper pendant Noël, mais quand oui, on en a marre de faire du shopping.
Je suis sûre que ça vous a donné plein d'idées à Ziadé, n'est-ce
oui,
pas?
Tout à fait.
Je vais tout dire à nos auditeurs. Vous avez un fils de 5 ans et là, franchement, ça manque pas de propositions.
Ouais, ça me donne envie de venir avec lui.
Il y aura de quoi
lui,
l'occuper.
Tout à fait.
Ah ben, vous êtes la bienvenue. Vraiment. Tous les deux.
Je viendrai.
Alors, Bénédicte, il vous reste 30 secondes, on va dire. Hein, voilà. Vous parliez d'architecture. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur Architecture by Road.
Ah oui, alors Architecture by Road, ce sont deux jeunes architectes montpelliérains diplômés de l'école d'architecture avec un copain réalisateur de films qui part partent faire un tour du monde de l'habitat. Donc ils vont rencontrer des architectes, des habitants, des urbanistes pour voir comment on habite dans le monde. Ils ont fait leur première étape en Asie et ils reviennent à Pierre-Vive pour présenter en avant-première le film qu'ils ont réalisé là, et ça va être génial. Ce sont des jeunes hommes formidables. Je vous invite à venir, c'est le 11 décembre à 19h, et ça va vraiment être un moment très, très riche et très convivial.
Parfait, Bénédicte Payeux, un grand, grand merci.
Merci à vous de m'avoir invité.
Rendez-vous tous à Pierre-Vive.
Tous. Vous pouvez tous rentrer dans le bâtiment. Il y aura de quoi faire pour tous.
Et rien que simplement pour le visiter, c'est un bâtiment magnifique.
Il y a des visites qui sont organisées.
Ouais, donc le site internet pierrevive.hero.fr. Restez à l'écoute d'FM+ pour la deuxième partie de cette émission avec Asiadé. J'ai du mal à prononcer votre nom,
Asiadé.
Baskounana, voilà, qui va nous parler de sa création. On reste sur le réseau.
C'est l'hiver. Un hôtel au bord de la mer, presque désert. Michel, un homme âgé, acteur. Il est venu dans cet hôtel pour apprendre un texte de théâtre. Peut-être le dernier. Il a peur de sa mémoire maintenant. Sarah, une femme d'une quarantaine d'années. Cécile, sa fille, 13 ans. C'est la première fois qu'elle dort à l'hôtel.
Les gens connus, donc le tout début, Asiadé, donc de cette création à découvrir. Il s'agit d'un texte de Françoise Cervantes, pardon.
C'est ça, voilà.
Voilà, et vous êtes à la mise en scène, donc à voir le 4 et le 5 décembre au théâtre de Villeneuve-les-Maglones, donc le 4 à 19h30, le 5 à 20h30. Mais nous allons rentrer dans le détail de tout ça et décortiquer un peu cette pièce. Avant, Asiadé Baskounana, j'aimerais vous présenter. Donc vous êtes metteur en scène et comédienne.
C'est ça, tout à fait.
Formée en 2003 à l'école de théâtre de la Compagnie Maritime à Montpellier. Vous avez nourri votre pratique par de nombreux stages et formations. Vous êtes également diplômée d'un master 2 pratique mise en scène à l'Université Paul Valéry. Vous avez collaboré comme interprète et metteur en scène avec différentes compagnies et artistes. Et en août 2011, vous créez votre compagnie de théâtre, La Chouette Blanche.
Voilà.
Vous êtes actuellement en résidence compagnonnage au théâtre de Villeneuve-les-Maglones.
Tout à fait.
Et donc, à cette occasion, vous allez présenter cette création, Les gens connus. Comme je disais, un texte de Cervantes. Alors bon, j'ai pas tout développé, mais c'est un bon résumé pour une introduction de votre parcours.
Tout à fait. Oui, en fait, le spectacle Les gens connus, correspond au premier rendez-vous en fait de ma résidence au théâtre de Villeneuve-les-Maguelones. Voilà, que nous allons présenter la semaine prochaine, donc dans très peu de temps.
Asiadé, vous privilégiez la collaboration avec des auteurs vivants par le biais de commandes. Ici, donc, François Cervantes, que vous connaissez bien.
Voilà, que je connais bien depuis plus de 10 ans. François Cervantes est un auteur et metteur en scène avec qui j'ai travaillé aussi en tant que comédienne. Il y a quelques années, il y a presque 10 ans, et avec qui j'ai gardé un lien assez fort, entre autres sur les échanges et les questionnements autour du théâtre et de l'écriture. Et je souhaitais, quand j'ai créé la compagnie, donc il y a 3 ans, de fonctionner par des commandes de textes que je fais directement à des auteurs, et donc j'ai pensé directement à François Cervantes.
Oui, c'est quelqu'un de, enfin assez, assez particulier, de très fort. C'est jamais, enfin, ce qu'il fait n'est jamais gratuit quand même. On l'a beaucoup vu à une période au domaine d'eau, oui. À l'époque où Christopher Crimes était à la direction.
Voilà, hein. Oui, parce qu'il était en résidence, enfin sa compagnie, la compagnie L'Entreprise, était en résidence au domaine d'eau pendant plusieurs années. Donc on a eu l'occasion de voir toute une série de spectacles à ce moment-là.
Oui, et aussi pour alors situer les auditeurs un peu mieux, on peut dire aussi tous les spectacles qu'ils ont adorés avec Catherine Germain.
Oui.
Voilà, c'était aussi voilà, François Cervantes, ils se connaissent depuis plus de 20 ans.
Hein, voilà, c'est ça.
On a vu des choses magnifiques.
Ouais.
Alors bon, donc voilà... spontanément, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de passer une commande à lui pour cette fois-ci en particulier?
Ça correspondait à un questionnement que j'avais sur le théâtre et une envie de travailler autour du thème de la première fois. Et j'ai eu envie de partager cette chose-là avec François Cervantes. Donc on est rentré dans beaucoup d'échanges pendant plusieurs mois autour de cette question de la première fois qui est très large et voilà, et qui est un sujet voilà, assez vaste. Et je souhaitais que ce soit qu'on recentre vraiment le questionnement sur le théâtre, l'acte théâtral en lui-même. Et que ce soit une pièce qui parle de ça, qui parle du théâtre aussi à travers une fiction. Donc il y a une histoire, mais à travers cette histoire, c'est aussi, on entend aussi parler de théâtre, voilà.
Et alors comment François a-t-il reçu votre demande? Ça a été très vite, il a très vite compris, tout de suite il a commencé à écrire, vous avez écrit aussi à deux, comment ça s'est
non,
passé
pas
le
du
travail
tout.
D'écriture?
On n'a pas du tout écrit à deux, il a écrit seul. En fait ça a mis plusieurs mois, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions entre nous. Moi j'ai réalisé des témoignages... Sur le thème de la première fois, où j'ai interviewé différentes générations. Donc on s'est mis d'accord sur cette chose-là, que ce serait une pièce qui parlerait... qui confronterait différentes générations entre elles, qui parlerait de la mémoire, du théâtre... Et donc toutes ces choses ont été posées voilà, progressivement au travers de longues discussions qui étaient passionnantes jusqu'à ce que naisse une fiction. Voilà.
Voilà, oui, avec voilà, ces trois personnages voilà. De génération, on voilà. Va dire, enfin vraiment...
Écartées, on peut dire. Ouais. Voilà, c'est donc dans la pièce réunit trois personnages. Donc un vieil homme qui approche des 80 ans, qui est acteur dans la pièce, qui est un vieil acteur qui est venu se retrouver dans un hôtel désert au bord de la mer pour travailler son texte, chercher une certaine solitude pour pouvoir travailler et faire rentrer ce texte dans sa mémoire. C'est un personnage qui a des problèmes avec sa mémoire. Et puis, dans cet hôtel, arrive une femme d'une quarantaine d'années, qui est secrétaire médicale, et voilà, qui n'est pas venue ici par hasard, plutôt, je ne vous en dis pas plus.
Voilà, ce qu'on pouvait penser à un hasard, en fin de compte, ne va pas l'être.
Voilà. Et puis elle est accompagnée de sa fille, qui a 13 ans, Cécile, voilà, qui l'accompagne. Donc la pièce, c'est trois générations qui vont se rencontrer. Et voilà, dans ce lieu unique, donc toute la pièce se passe dans ce lieu, dans la salle de restaurant de cet hôtel, une sorte de huis clos, un peu, les trois personnages sont systématiquement dans cette salle de restaurant, ils sont face à une baie vitrée, et derrière cette baie vitrée, il y a la mer, donc ils sont sans cesse face à la mer. Dans le spectacle, la mer, c'est le public. Donc les acteurs sont dans ce rapport-là, en tout cas face au public, comme les personnages sont face à la mer.
Alors, l'univers sonore est très très important. On va en parler. On écoute d'abord sur le réseau FM+. Sur le réseau FM+, un extrait sonore donc qui fait partie du spectacle Les gens connus, une création de Asiadeh Baskounana, donc un texte de François Cervantes, à voir le 4 et le 5 au théâtre de Villeneuve-les-Maglones, donc scène nationale conventionnée en Languedoc-Roussillon. Non, elle ne l'est plus.
Ce n'est pas une scène nationale.
C'est une scène, pardon, conventionnée, Languedoc-Roussillon. Moi, je mettais tout, là.
Ils aimeraient bien, je pense.
Je mettais tout. C'est le théâtre de Sète qui est scène nationale. Voilà. Alors, l'adresse 235 boulevard des Mours. Un téléphone pour les réservations 69 04 67 69 58 00. Les tarifs vont de 16, 13 ou 8 euros. Alors, Asiadeh, nous disions que l'univers sonore est très important. Est-ce que vous voulez nous parler aussi comment s'est fait le travail de création ?
En ce qui concerne la musique, ça a été réellement un travail de création, c'est-à-dire que trois musiciens ont composé directement la musique spécialement pour le spectacle. Donc il y a toute une période de création musicale qui s'est faite avant le début des répétitions, en même temps que le travail sur l'espace et le travail sur la lumière. Je tenais vraiment à ça, c'est qu'il y ait une collaboration vraiment étroite entre les trois artistes, c'est-à-dire entre le scénographe, enfin la scénographe, qui est une femme, qui est Claire Farah, le créateur lumière, qui est Olivier Modol, et le compositeur, qui est Damien Fadat. Voilà, je souhaitais qu'on puisse travailler en amont des répétitions avec les acteurs sur un objet musical et visuel qui puisse préparer en fait les résidences avec les acteurs. Voilà, donc c'est un peu fonctionner à l'inverse de ce qu'on pourrait faire d'habitude, où on part du texte, on part du travail sur le plateau avec les acteurs, et progressivement on crée la lumière, la musique s'inspire aussi de ce qui se passe directement sur le plateau. Là, mon désir était vraiment de travailler en amont, en lien très étroit avec le texte. C'est-à-dire que par rapport à ce texte, savoir ce qui pouvait nous inspirer ensemble, avec la scénographie, le son et la lumière, pour créer déjà un objet qui existe avant qu'on entame le travail de répétition avec les acteurs. Donc la création s'est faite vraiment en deux temps. Et en ce qui concerne la musique, donc on a eu des heures d'enregistrement où Damien Fadat, qui est le compositeur, s'est accompagné de deux autres musiciens. Donc comme nous venons de l'entendre, la musique du spectacle réunit trois instruments, le violoncelle, le vibraphone et la flûte traversière. Et donc ces trois artistes se sont inspirés plutôt par l'improvisation de la matière du texte. Donc, se sont inspirés de l'ambiance générale qui plane dans ce texte. Le temps qui fait, la présence de la mer, la relation des personnages entre eux. Voilà, toutes ces choses-là ont été traduites d'une certaine façon musicalement. Et puis ensuite, avec toutes ces propositions, parce qu'on a eu plusieurs heures de musique, on a fait des choix à l'intérieur. Et à partir de ça, le compositeur a sélectionné des morceaux et a composé réellement, a réécrit aussi en fonction de, voilà, de toute cette matière qu'il y avait.
Alors, par exemple, l'extrait que nous venons d'entendre, vous le situez où dans la pièce? Vous pouvez nous donner quelques indications par rapport à, voilà, au déroulement de la pièce?
Alors, cet extrait, il se situe à peu près au milieu de la pièce. Il correspond à une transition entre deux scènes. Dans la pièce, on change d'espace mental et pas d'espace physique. Et pour cela, j'ai créé des transitions qui sont souvent traduites aussi par la présence d'un noir au niveau de la lumière, enfin, pas de lumière, justement. Et donc, à ce moment-là, il y a des plages musicales qui sont présentes et qui nous permettent de rentrer dans un autre univers mental. Parce que l'originalité de cette pièce, sans forcément dévoiler ce qui va s'y passer, mais en tout cas l'originalité de l'écriture, c'est qu'il y a deux sortes de narrations préexistantes dans le texte. Une narration où les personnages parlent entre eux, donc du discours direct, et puis une narration où les pensées des personnages communiquent entre elles. Donc il y a comme une sorte de distance, l'histoire continue, on continue de suivre l'histoire, mais par la pensée des personnages. Et c'est une parole qui est beaucoup plus libre. Il y a des choses qui se disent qui peuvent pas se dire de façon directe, puisqu'il y a une certaine distance entre chaque personnage qui se rencontre. Et dans les pensées, ça permet de, comme une sorte de dialogue intérieur où ils puissent communiquer façon peut-être plus directe et plus organique. Voilà. Donc la musique aussi accompagne ces changements-là. Quand il y a la bascule d'un espace à l'autre, donc moi j'appelle ça des espaces mentaux, la musique traduit cette chose-là.
Alors voilà. Vous avez amené un deuxième extrait, on l'écoute. Rêve sur le réseau FM+, et vous nous donnez très très envie, Asiadé, de voir cette création, les gens connus, donc à découvrir le 4 et le 5 au théâtre de Villeneuve-les-Maglones. Asiadé, vous êtes à quelques jours là de la première, dans quel état d'esprit ou de fatigue êtes-vous?
Ouais, c'est depuis plusieurs semaines, on travaille voilà sans relâche sur cette création, et c'est vrai que donc là on est en plein dedans. Hein, j'ai pris le temps de venir vous parler ici, mais voilà, l'équipe continue à travailler encore maintenant. On est vraiment, je pense jusqu'au dernier moment concentré sur cette création Enfin voilà, on travaille beaucoup, pour ma part, jour et nuit en ce moment. Oui. J'y pense beaucoup.
Oui, c'est un challenge énorme aussi, bien sûr.
Oui, voilà, et puis ça correspond aussi au premier spectacle, on va dire, vraiment officiel de la compagnie. Parce que là, c'est une jeune compagnie, je l'ai créée il y a 3 ans. Et voilà, ce spectacle a demandé quand même un long travail de production pour qu'on arrive à réaliser voilà, ces résidences de travail et qu'ils puissent voir le jour. Donc c'est au moins 2 ans aussi de travail et on est très content maintenant de pouvoir le montrer. Je crois que là maintenant on attend vraiment le public pour partager voilà ce travail-là.
Oui. Alors moi je suis toujours énormément extrêmement admirative du travail des metteurs en scène. C'est vrai que c'est un boulot fou. Je crois que je suis pas sûr que les spectateurs s'en rendent vraiment compte. C'est vraiment du 24 sur 24 et ça peut être voilà sur des années. C'est énorme, il faut penser à tout, à tout, à tout.
Et c'est généreux, je trouve aussi, parce qu'effectivement, on n'est pas sur scène. Donc après, on abandonne. Donc les choses se déroulent, les comédiens sont sur scène et il faut être là, attentif, les chouchouter, leur oui. donner confiance. Et en même temps, il faut s'abandonner à eux, quoi.
Oui, c'est ça. Voilà. Il arrive un moment où il faut accepter de sentir que ça nous appartient plus et que c'est le spectacle après seul qui continue de grandir. Mmh. Mais c'est sûr que le travail de mise en scène est un travail très intense. On est un peu à tous les postes, d'être toujours conscient que sur tous les éléments qui constituent le spectacle, on raconte ensemble la même histoire et cette chose-là, voilà, je pense que c'est vraiment le metteur en scène qui le dirige. Voilà, il fait en sorte que la lumière, le son, l'espace, les acteurs, tout le monde s'embarque sur la même histoire. Mmh. Voilà, donc ça demande d'être un peu à tous les postes, ouais, mmh. effectivement.
Aziadé, vous avez quand même quelques dates là, plutôt belles, en dehors du 4 et 5 au théâtre de Villeneuve-les-Maguelone, les auditeurs vont pouvoir vous retrouver dans différentes villes, je pense à la Vacquière, donc c'est dans les rôles le 9 décembre. C'est
la Vaquerie.
La Vaquerie, pardon, ouais. excusez-moi.
C'est ça. Le 9 décembre à la Vacquerie, le 9 et 10 janvier au Théâtre des Franciscains à Béziers, le 12 janvier au Théâtre de Mende et le 12 mai à la scène nationale de Foix, l'Estive. Voilà, donc ça c'est les dates pour cette saison et pour le début de l'année prochaine. Voilà.
Et peut-être d'autres qui s'ajouteront après voilà. la création. Ouais.
On l'espère. Bah oui, voilà. oui, on l'espère. C'est clair que les directeurs de théâtre, etc., vont être présents et voilà. ont hâte de découvrir votre travail. Ça aussi, ça va encore donner encore plus le trac.
Un petit peu. Ça rajoute un enjeu supplémentaire. Oh, donc,
aïe. On les attend.
Aziadé, vous avez votre compagnie a un site internet si on veut aller chercher un peu plus d'infos.
Pas encore, on va s'en occuper.
Ça c'est la nuit prochaine, c'est ça?
Voilà, on va... Non, c'est la partie communication, c'est vrai que voilà, c'est dans le projet, on doit s'en occuper, ça va arriver. Je souhaitais parler aussi de la distribution, parce qu'on n'en a pas parlé.
Oui, c'est vrai.
C'est une belle distribution. Le rôle de la femme est joué par Élise Caron, qui est une comédienne et surtout connue comme chanteuse de jazz et de musique contemporaine. Voilà, qui est une très belle interprète. Et puis on a Daniel Dubois, qui est un acteur âgé, et voilà, qui est aussi un très beau comédien avec un parcours assez remarquable, qu'on a pu voir ces dernières années dans une interprétation de Gepetto dans Pinocchio de Joël Pommerà. Et une enfant, une ado, une pré-ado, Luna, qui est une jeune apprentie comédienne.
De l'école de la Compagnie Maritime.
De l'école de la Compagnie Maritime.
Très bien, vous restez fidèle à
voilà.
votre école.
Et voilà, donc c'est la distribution des gens connus, donc 3 générations aussi qui sont...
Ce qui n'est pas évident de faire fonctionner ensemble.
Ce qui n'est pas évident. Bon, après, sur le travail du jeu, c'est vraiment s'adapter aussi à 3 types de... 3 générations, 3 types de...
Nous viendrons voir votre spectacle. Asia Devaskunana, un grand merci. Merci à Manu qui est à la technique et merci à vous, chers auditeurs. Merci Bénédicte. Au revoir à tous.